Radio Prague, les informations.
L'Ordre des médecins tchèques demande la démission du ministre de la Santé. Le premier ministre tchèque refuse de fixer la date du passage à l'euro. Le maire de Prague rejette le traité de Lisbonne. L'Ordre des médecins tchèques demande la démission du ministre tchèque de la Santé, Tomáš Julínek. Lors du congrès de l'Ordre des médecins, ce week-end à Prague, 131 délégués ont voté pour la démission, 94 ont été contre et 16 se sont abstenus. Les délégués du congrès ont appelé également le gouvernement et le Parlement à rejeter la réforme de la santé publique préparée par le ministre. Si le gouvernement tchèque fixe la date du passage de la Tchéquie à l'euro, il ne le fera que l'année prochaine. Une déclaration lors d'un débat télévisé du premier ministre tchèque Mirek Topolánek. Le chef du gouvernement estime qu'actuellement il sera irresponsable de fixer cette date à cause de la crise financière globale. Pavel Bém, maire de Prague, est candidat au poste du président du Parti civique démocrate ODS, formation principale de la coalition gouvernementale tchèque, s'est prononcé contre l'adoption par la République tchèque du traité de Lisbonne. Le maire estime qu'il n'est pas possible que les Tchèques passent sans raison leurs compétences à Bruxelles, sans même comprendre pourquoi ils le font. Le chef du gouvernement tchèque Mirek Topolánek admet que le président du Parti social-démocrate tchèque Jiří Paroubek pourrait devenir président de la Chambre des députés tchèques. À son avis, cette mesure permettrait à la social-démocratie tchèque, formation principale de l'opposition, d'assumer une plus grande partie des responsabilités de la présidence tchèque de l'Union européenne au cours du premier semestre de 2009. D'après le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexandre Grushko, cité par l'agence AP, au cas où les États-Unis abandonneraient leur projet d'installer leur système antimissile en Pologne et en Tchéquie, Moscou renoncerait au projet de déploiement de ses missiles près de Kaliningrad. Le projet d'installer des missiles Iskander non loin de Kaliningrad, situé près de la frontière polonaise, avait été rendu public ce mercredi par le président russe Dmitri Medvedev. C'est pour la deuxième fois consécutive que la lanceuse de javelot tchèque Barbora Špotáková a reçu ce samedi à Prague le titre de l'athlète tchèque de l'année. Barbora Špotáková, qui détient le record du monde dans sa discipline, avait gagné aussi la médaille d'or de lancer de javelot aux Jeux olympiques de Pékin et aux championnats du monde d'Osaka en 2007. Barbora Špotáková, 27 ans, étudie à l'université agricole tchèque à Prague. Météo, ce dimanche, fête de tous les Bordans selon le calendrier tchèque, Dieu donné en français, le ciel en Tchéquie est variable sur l'ouest et nuageux sur l'est du pays. Les températures ont grimpé dans l'après-midi jusqu'à 13 degrés. Lundi, le temps en Tchéquie sera nuageux à variable et les températures diurnes s'échelonneront de 11 à 15 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter.
Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de Culture sans frontières. Toute cette semaine, à Prague, s'est déroulée la semaine du théâtre français. Outre des projections sur grand écran, de pièces de théâtre et des lectures bilingues, ainsi que d'autres rendez-vous, la première soirée accueillait le comédien français Jacques Weber pour son spectacle Seul en scène. Cet éternel amoureux du théâtre, qui s'est illustré notamment par son interprétation de Cyrano, a lu devant un public exclusivement francophone des extraits de textes de Duras, Molière, Musset, Baudelaire, La Fontaine et autres grands de la littérature française, y rajoutant sa touche personnelle entre les lignes et entre les extraits. Au micro de Radio Prague, il s'est rappelé de la naissance de ce spectacle.
C'est un spectacle bizarrement révolté qui est né lorsque j'étais directeur d'un centre dramatique national en France, à Lyon. Et une actrice qui était malade et qui annulait le spectacle me dit « Vous qui étiez acteur », pensant que, étant directeur de théâtre, je ne pouvais plus être acteur. Ça m'a tellement révolté, mais gentiment, je n'en veux pas du tout. Que j'ai dit « Tiens, bah, la semaine prochaine, je rentrerai en scène et j'improviserai sans savoir ce que je vais faire, juste avec mes mémoires, les mémoires de quelques textes que j'ai, que j'aime ». Et j'ai dit à mon équipe d'organiser tout. Et je suis rentré en scène sans savoir du tout ce que j'allais faire. Et l'origine de ce spectacle, c'est celle-ci. Et puis, Raymond Devos, qui est un homme que j'adorais, m'a dit, mais tu sais, si tu continues comme ça, ce que tu vas mettre en jeu dans ce spectacle, c'est plus la peur que les textes. Tellement tu vas avoir peur, parce qu'on ne peut pas vivre toujours sur l'improvisation. Et plus tu travailleras, plus tu seras libre, m'avait-il dit. Et tu te sentiras libre. Et c'est ce que j'ai fait. Après, ce spectacle a eu 1000 structures, enfin pas 1000, j'exagère, mais au moins une dizaine. Il y a même des structures où j'ai chanté, même j'étais accompagné au piano, il y en a d'autres où il y a eu d'autres textes. Mais il vieillit comme moi, il vieillit avec, il vieillit comme le bon vin, j'espère. Et je sens que désormais, par exemple ce soir, j'ai trouvé qu'il y avait des textes que j'avais vraiment très très bien travaillés. Enfin, j'avais fait du bon artisanat, voilà.
Ça veut dire qu'en gros, le public pragois a eu droit à sa version, en fait, de ce spectacle par rapport à d'autres publics.
Oui, bien évidemment. Enfin, il a eu une version approximativement la même que celle que j'ai présentée au Théâtre de la Gaîté Montparnasse il y a quelques temps. Mais il y a quand même de l'impro, hein, dans le spectacle. Il y a des virages, des changements. Mais les grands textes fondateurs, c'est-à-dire Maïkovski, Beckett, Duras, De Vos, Courteline, sont là toujours, oui.
Alors c'est vrai que c'est présenté un peu dans le programme comme Jacques Weber lit ses grands auteurs, mais finalement vous ne les citez jamais en fait. C'est à chacun finalement soit d'aller puiser dans sa mémoire s'il se souvient de certains textes qu'il a pu lire, ou de reconnaître le style des auteurs.
Parce que je trouve ça absolument sans intérêt. Cessons d'être des espèces de vaniteux, prétentieux, qui oublient que nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Qu'est-ce que c'est important? Enfin, j'exagère beaucoup, hein, mais je sors de scène, donc je suis encore sûr. Mais je trouve que ça n'est pas important. Ce que justement je veux faire, c'est surtout pas de dire de qui c'est. Parce que si la recherche, je sais de qui c'est, on n'écoute plus le texte pour ce qu'il est. Et en plus, on introduit un référent qui, à mon avis, pervertit de toute façon, au sens propre du terme, l'écoute que l'on a du texte. Mais là, je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont été bouleversés par Marguerite Duras. Si je leur avais dit que c'était du Marguerite Duras, ils auraient dit « Oh là, c'est un peu un télo, etc. » Bon, ben non, c'est un fait divers qu'elle raconte divinement, le coupeur d'eau. Le nuage en pantalon, Maïkovski, c'est très complexe comme texte. On ne sait pas d'où il sort, il y a des gens qui le prennent en pleine poire. Et moi, j'ai pris ce texte uniquement parce qu'en plein... En pleine poésie baroque, en pleine poésie extrêmement rocailleuse, adjectivée, baroque, d'un seul coup, il y a un type qui dit « Allô, maman, je ne peux plus chanter ». Et le fait qu'il dise « maman », c'est comme quelque chose qui vient du plus profond du cœur de l'homme, quoi. Enfin, quand un homme va mal, il dit « maman ». Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Maïkovski.
Alors, on boude pas quand même son plaisir, puisque on peut reconnaître certains textes, en tout cas pour ceux qui ont étudié en France, par exemple. Et vous avez ce passage extraordinaire, justement, avec une fable de La Fontaine, le corbeau et le renard, qui est un peu, j'allais dire, un petit peu une espèce de clou dans votre spectacle, déjà par l'humour, hein, et parce que ça évoque aux gens, puisque c'est une forme, en fait, d'une certaine manière de cours, finalement, un peu.
Oui, alors, si vous voulez, bon, d'abord, je m'amuse, hein, c'est ma récréation, c'est aussi un peu la vôtre, puisque ce texte est encadré par des textes assez complexes, comme... la tirade de la séduction de Don Juan, ou comme le coupeur d'eau juste après. Mais c'est aussi une façon de dire, vous savez, on peut travailler en s'amusant. Il ne faut pas non plus penser qu'à partir du moment où on attaque un texte classique, quel qu'il soit, même du Racine, c'est la chape de plomb, le sérieux. Le sérieux, oui, mais la tristesse, la lourdeur, non. Moi, je suis très sérieux en faisant ça. Il y a là-dedans, même en faisant le crétin, le clown... un très sérieux travail sur la diction et sur l'analyse du corbeau et du renard.
Ça sent d'ailleurs, on se dit que finalement, si on nous enseignait comme ça la littérature...
Voilà. Et je crois que c'est ça qui fait que les gens aiment tellement ce moment-là, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de vrai qui se dit. Je ne fais pas que le pitre. Ils sentent qu'il y a quelque chose de vrai. Lorsque je dis « lui teinte à peu près ce langage », de ressortir ce « à peu près » comme une chose qui tient compte du fait qu'il s'agit d'énoncer une recomposition du souvenir, c'est fondamental. Enfin, bon, je peux vous en dire 10 000 comme ça.
Le titre de votre spectacle, c'est « Seul en scène ». Est-ce que être seul en scène, c'est être sans filet?
Non, vous savez, moi je crois qu'être seul en scène n'est pas plus difficile. J'ai peut-être même que c'est moins difficile que de jouer un grand texte. Et pourquoi? Parce que lorsque vous jouez Hamlet ou Alceste ou Cyrano, enfin, ce qui m'est arrivé souvent, si vous n'êtes pas bien... Si vous écorchez, si vous avez des moments de flottement, le mensonge que vous proposez d'interprète, c'est Alceste qui prend, c'est Hamlet qui prend, c'est Cyrano qui prend. Là, il y a une connivence immédiate entre le public et vous, dans un one-man show, bien que je n'aime pas l'expression, un seul en scène, qui fait que bah, si vous avez des petits coups de mou, c'est vous qui êtes en jeu, c'est pas très grave, on est complices. C'est un spectacle, même s'il est extrêmement, je crois, sérieux, qui est complice, alors qu'on ne peut pas être complice quand on joue Alceste.
C'est évident, enfin, quand on voit sur scène que le théâtre et vous, c'est une histoire d'amour, est-ce que ça doit s'entretenir, une histoire d'amour comme ça, avec la scène, avec le public ?
À votre avis, est-ce qu'une histoire d'amour doit s'entretenir ? Ben, je ne crois pas qu'il faut avoir le concept de l'entretien, parce que déjà, je pense que de soi, de fait, lorsqu'on aime son jardin, on le cultive. Et je le prends aussi bien dans le sens concret, de la main verte, que dans le sens figuré. Et on le cultive de soi, on ne se force pas, enfin, d'évidence, on ne veut pas voir une fleur pourrir, c'est horrible. Et je crois que c'est vrai que moi, j'ai 59 ans, je vais avoir 60, je les sens venir, j'arrive à une conscience artisanale où je me rends enfin compte que je peux encore aller plus loin, encore plus affiné, encore plus... Mais qu'est-ce que c'est à l'infini ce travail, mon Dieu qu'il est beau, quoi. Et qu'être artisan de la scène, c'est magnifique. Je trouve dommage qu'il y ait tellement de gens qui se ruent sur la scène comme d'une espèce de je sais pas, d'air de jeu pour se dévisser de nombril. Je trouve ça parfaitement détestable et méprisable.
Je vais m'installer en face de M. Poirot, commençait à déployer ma serviette, tandis que mon correspondant amenait doucement à lui la mystérieuse soupière. Je pensais, et là, mon Dieu, que peut-il y avoir là-dedans ? Et d'avance, est-ce qu'on tend quelques chefs-d'œuvre culinaires ? Je me pourléchais les babines quand mon correspondant, enlevant brusquement le couvercle, découvrit à mes yeux la vraie, une tête de veau toute fumante. Or, je ne sais ce que nous nous sommes fait, la tête de veau et moi, mais nous professons l'un pour l'autre une haine mutuelle et cordiale.
Suite en deuxième partie d'émission de l'interview avec le comédien et metteur en scène Daniel Mesguich, dont vous avez entendu la première partie dans les derniers faits et événements de la semaine. Daniel Mesguich était à Prague pour une lecture bilingue de petites histoires extraites du recueil « Théâtre sans animaux » de Jean-Michel Ribe. Tout de suite, un petit rappel sur ce dramaturge avant de parler de Prague et de l'art dramatique avec Daniel Mesguich.
Jean-Michel Ribe est un écrivain français qui est, je ne sais pas s'il serait d'accord avec moi quand je vais le qualifier comme je vais le faire, mais qui est premièrement un écrivain d'humour. Il travaille dans l'humour, tout ce qu'il écrit est drôle et censé faire rire. D'ailleurs ça fait rire, je crois, souvent en tout cas, d'une part. D'autre part, c'est un humour, comme il le dirait lui-même, je pense, un humour de résistance, un humour pas du tout consensuel. C'est pas l'humour du théâtre de boulevard français, parisien, ni même l'humour de la télé, enfin du café-théâtre de télé, quoi, des amuseurs. C'est un humour corrosif, un humour violent.
Certains de ces textes se retrouvent dans une anthologie du théâtre français contemporain qui sort en tchèque, donc qui ont été traduits en tchèque. La preuve, c'est que vous aurez donc un autre comédien qui va lire à côté de vous en tchèque. Pour vous qui travaillez avec la langue, et puisque vous avez entendu les sonorités de la langue tchèque, qu'est-ce qu'elle vous évoque comme image ou comme impression, en fait, quand vous l'entendez ?
Je ne peux pas tellement bien vous répondre, parce que j'avais le texte français sous les yeux et je suivais, pendant que nous avons répété, là, Pavel et moi, je suivais le texte français pendant que j'entendais le tchèque. Comment dire, c'était comme un jeu de piste, enfin. Et je me raccrochais évidemment au nom propre quand j'entendais Monica. Je me disais, ah ben tiens, ça doit être Monique. Et puis voilà. Non, très franchement, je ne peux pas vous dire. Moi, j'aime beaucoup écouter les langues étrangères en général. Je ne les parle pas, hein. Je parle à peine anglais et la langue tchèque me paraît intéressante. Elle me paraît pleine de choses trappes et de richesses. J'ai vu par exemple que ce n'était pas construit de la même manière. J'entendais le sujet parfois à la fin de la phrase alors que nous l'avions au début, des choses comme ça. Et puis, il me semblait que par moments, c'était beaucoup plus court, bizarrement. Alors que j'imaginais, comme il y a plus de consonnes dans la langue tchèque, j'imaginais que ça allait être plus lourd, plus long. Et ben non, pas du tout, c'était plus court. Voilà, mais je ne peux pas vous répondre vraiment.
Je crois savoir que ce n'est pas la première fois que vous venez à Prague, en République tchèque. Vous avez aussi, en dehors de toutes vos activités, vous avez aussi mis en scène des opéras. J'ai découvert ça avec surprise, je ne savais pas. Et vous avez notamment mis en scène des pièces d'opéra ici à Prague. Est-ce que vous pourriez un petit peu me rappeler de quoi il s'agissait ?
Il s'agissait de Elephant Man, qui est un opéra français contemporain. Et c'était au Stadtny Opera. C'était assez folklorique. Parce que je pense que c'était il y a déjà quelques années, je sais pas exactement maintenant, 4-5 ans, je ne me rappelle plus. Mais c'était un moment de transition, me semble-t-il, entre quelque chose qui était resté presque soviétisé, très très bureaucratique en tout cas, et très lourd, très fonctionnarisé, et puis une espèce de capitalisme sauvage absolument hallucinant. Par exemple, il n'y avait aucun technicien. Quand on demandait quelque chose, il fallait engager une entreprise pour un acte de machinerie quelconque. Voilà, donc tout ça me paraissait un peu fou. Et ça a été assez difficile, folklorique et difficile. Ce qui ne veut pas dire que c'était pas réussi. Je pense que moi j'étais très très heureux, et à l'arrivée je crois que nous avons fait un très bel ouvrage. J'étais content du résultat. En manière de plaisanterie, je ne devrais pas vous dire ça, mais je le dis avec tendresse. Je le dis pas du tout de manière persifleuse ou encore moins méchante, bien sûr. Encore en France, avec certains collaborateurs que j'avais qui ont participé à cette aventure, de temps en temps quand un truc va très très mal, je dis bon, on dirait le Stadtny Opera là, c'est n'importe quoi. Enfin voilà. Mais cela dit, c'était rigolo quand même. Mais je n'ai pas fait que ça à Prague. À Prague, j'ai tourné comme acteur dans des films. J'avais tourné, alors là c'était du temps du communisme, c'est il y a longtemps. J'avais tourné deux films. Un film qui s'intitulait Apollinaire, et que j'avais tourné dans le petit cimetière juif de Prague. Et puis un autre film qui était pour la télévision française, celui-là, c'était l'affaire Dreyfus. Ça, c'était une chose. Et puis autrement, j'ai été aussi récitant dans des concerts. Nous avons enregistré un disque avec Serge Baudot. Et ça, j'en garde un merveilleux souvenir, là, parce que j'adore Serge Baudot, je trouve que c'est un homme merveilleux. Et chaque fois, je vois Prague de manière différente, et puis Prague change à une vitesse folle. Donc chaque fois, je vois une autre ville, je crois la connaître et je la connais pas.
Et vous multipliez les activités, les variations sur le même thème, j'allais dire. C'est important pour vous d'avoir cette variété, cette espèce d'éventail dans votre vie, dans votre métier ?
Oui, je crois que c'est important. C'est peut-être une névrose, en réalité. Ou alors un manque de confiance dans ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire qu'à peine je fais une chose, que je me dis qu'il faudra en faire une autre. Je sais que quand je suis metteur en scène, par exemple, et j'adore mettre en scène, je crois que je suis avant tout un metteur en scène, pourtant j'ai commencé comme acteur. Et alors à peine je mets en scène que j'ai envie de jouer, à peine je joue que j'ai envie d'écrire, à peine j'écris que j'ai envie d'enseigner, à peine j'ai envie d'enseigner que j'ai envie de diriger un théâtre, etc. Ce qui fait que je fais beaucoup de choses très différentes dans ma vie qui toutes, vous l'avez signalé, tournent autour, non pas du même thème, mais du même centre de gravité en tout cas. Et ce centre de gravité, c'est la dramatique.
Cette semaine du Théâtre français accueillait deux grands comédiens français, Jacques Weber et Daniel Mesguiche, que vous avez pu entendre dans cette émission. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc. Jarka Gisubelova.
Aujourd'hui, nous nous rendrons à 70 km au nord-est de Prague, aux environs de la ville de Mladá Boleslav, connue pour son usine de voitures Škoda. Cette fois, c'est le château baroque situé à 10 km de là, à Mnichovo Hradiště, qui est le but de notre promenade. Le mot Mnich, moine en français, dans son appellation, se réfère à un ancien couvent qui se trouvait tout près d'ici et où la brasserie Klášterec a aujourd'hui son siège. Avec un jardin à la française au milieu, des écuries situées dans les deux ailes latérales, la Sala Terrena en face de l'entrée principale et le précieux théâtre baroque, le château forme un vaste complexe auquel appartient aussi le lieu du dernier repos d'Albrecht de Wallenstein, commandant militaire des armées impériales à l'époque de la guerre de 30 ans. Wallenstein a acquis le domaine en récompense de ses services après la défaite des États tchèques à la Montagne Blanche en 1621. Car celui qui le possédait jusqu'alors, Václav Boudovec de Budov, était parmi les 27 seigneurs tchèques insurgés et décapités sur la place de la vieille ville, raconte Kateřina Oplešťková, notre guide pour les deux circuits de visite au château de Mnichovo Hradiště.
Václav Boudovec Budova byl vůdce českých stavů a protestantské opozice.
Václav Boudovec a commandé les États tchèques insurgés, l'opposition protestante dans la guerre de 30 ans. Après la défaite de l'opposition, dans la bataille de la Montagne Blanche, il a été exécuté, ses biens confisqués, et c'est ainsi que le domaine de Mnichovo Hradiště est passé entre les mains d'Albrecht de Wallenstein.
La famille noble des Wallenstein a gardé le domaine pendant plus de 300 ans jusqu'en 1946, date de sa nationalisation. Le château a reçu son aspect baroque actuel grâce à Ernst Joseph de Wallenstein. Les arts et la musique y étaient cultivés par un autre membre de la famille, Vincent, connu pour être le mécène de Józef Myśliwiczek, surnommé Il Divino Bohemo, que même Wolfgang Amadeus Mozart, ami de Vincent Wallenstein, admirait. La visite du château commence dans les chambres privées de style baroque, richement meublées et décorées de tableaux accrochés sur les murs recouverts de papier peint à la main et de tapisseries précieuses. Dans les salles représentatives, on admire une fresque de 1724 représentant le roi des dieux Zeus et Héphaïstos que les restaurateurs ont retrouvé au début des années 1990 sous une couche de peinture blanche. Au salon musical, Guit attire notre attention sur un clavecin du milieu du 19e siècle, un bureau incrusté d'ébène et d'ivoire importé de France. Une autre particularité du château, la pinacothèque, datée de la première moitié du 18e siècle.
Je zde 110 obrázků různé kvality.
Elle contient quelques 110 tableaux de qualités différentes. Le plus précieux est David et Bethsabée du peintre allemand Strobel. L'histoire de cette pinacothèque est très intéressante. À l'origine, il y avait des cadres et ce n'est qu'après seulement qu'on a cherché des toiles. Puisque leurs dimensions ne correspondaient pas toujours aux cadres, il a fallu soit les couper, soit les agrandir. Et c'est comme ça que plusieurs tableaux ont été modifiés ou dévalorisés.
La plus appréciée par les visiteurs de Mnichovo Hradiště est la salle à manger qui abrite l'une des plus belles et l'une des plus complètes collections de faïence de Delft en République tchèque. Kateřina Olplečková nous la présente.
La faïence de Delft, appelée aussi le bleu de Delft, est une forme de céramique recouverte de glaçure ou d'émail. Cet aspect de porcelaine fait justement la célébrité des faïences de Delft, dont la fabrication a commencé au XVIIe siècle, dans le port hollandais de Delft. C'était en fait des copies de porcelaine japonaise et chinoise importées en Europe et inaccessibles pour la bourgeoisie de l'époque, pour laquelle les maîtres hollandais se sont mis à imiter la porcelaine d'Orient.
Une fierté du château de Mnichovo Hradiště, la bibliothèque dans laquelle Karl Emanuel Wallenstein a employé comme bibliothécaire le célèbre aventurier italien Giacomo Casanova. Beaucoup de livres ont été déplacés ici du château de Duchtzow, qui appartenait aussi au Wallenstein et qui est le plus étroitement lié au séjour de Casanova dans les pays tchèques.
Les livres sont placés dans des étagères d'origine. La bibliothèque occupe trois grandes salles et elle compte plus de 22 000 tomes, dont environ 2000 œuvres, qui s'attachent à la période de la guerre de 30 ans et de la contre-réforme. Le plus grand nombre de livres sont consacrés à la botanique. Il y a aussi des cartes et des écrits de sciences occultes, de cabale et d'alchimie. La bibliothèque garde les manuscrits de Giacomo Casanova, qui a rédigé au château de Duchtzow son dernier ouvrage intitulé « L'histoire de ma vie ».
C'est tout pour ce bref survol des deux premiers circuits de visite guidée au château de Mnichovo Hradiště. Le troisième circuit nous conduira au théâtre baroque du château. Les Wallenstein adoraient le théâtre. En 1833, ils ont fait aménager leur propre théâtre dans une partie du château reliée par un couloir avec la partie résidentielle. Sur le chemin, le guide Teresa Zemiova nous montre un objet étrange, un rouleau avec manivelle à l'aide duquel, comme elle le révèle, on imitait le vent dans ce théâtre.
«
En 1833, le château de Mnichovo-Hradiště accueillit une rencontre politique au sommet de la Sainte Alliance qui se déroulait en présence de l'empereur autrichien François Ier, du tsar russe Nicolas Ier et du prince de Prusse Friedrich Guillaume. Son objectif était d'affermir le pouvoir absolutiste de l'Autriche-Hongrie, de la Russie et de la Prusse face au processus de démocratisation venant de la France. Les trois souverains sont arrivés à Mnichovo-Hradiště accompagnés de leur épouse et ami, et Christian de Wallenstein a trouvé nécessaire de préparer un divertissement pour cette société, dit Teresa Zemiová.
Mimo výjezdu do přírody, pořádání honu a taneční zábavy,
à part des excursions dans la nature, des chasses et des balles, c'était ce théâtre qui a joué un grand rôle. On a invité la compagnie du Théâtre des États à Prague, qui a donné ici, par exemple, la comédie de Goldoni, le valet de deux maîtres.
A sehrála se tu například komedie Goldoniho sluha dvou pánů.
De nos jours, le théâtre baroque de Mnichovo-Hradiště est tout à fait unique et l'un des mieux conservés à l'échelle européenne. Des éléments techniques d'origine ainsi que de nombreuses décorations scéniques y sont sauvegardées.
On a la chance de pouvoir utiliser les décorations scéniques représentant des natures mortes, des maisons et des rues historiques. Et parmi les plus précieuses, il y a les coulisses du château de Prague et du quartier de Malastrana. Les décorations étaient échangées à la main à l'aide de rails en bois. Le théâtre était éclairé par des lampes à huile et à pétrole. Beaucoup de costumes d'acteurs ont également été conservés.
Depuis 1999, le théâtre du château de Mnichovo-Hradiště est accessible au public et on y donne notamment des opéras baroques et des concerts de musique ancienne. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et de votre fidélité. Au revoir et à très bientôt sur Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz.